Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratite, qui avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne et le nom de la seconde Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant le Seigneur des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, prêtres du Seigneur. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina, ainsi qu'à tous les fils et filles de celle-ci. Mais il donnait à Anne une part d'honneur, car il aimait Anne, bien que le Seigneur l'eût rendue stérile. Sa rivale ne cessait de la contrarier, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. D'année en année, il faisait ainsi, et chaque fois qu'Anne montait à la maison du Seigneur, Pénina la contrariait de la même manière. Alors elle pleurait, et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Élie, le prêtre, était assis sur son siège, près du montant de la porte du temple du Seigneur. Elle, amère, se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affliction, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme sa prière se prolongeait devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Mon Seigneur, je ne suis pas une femme entêtée et je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée. Je me répandais devant le Seigneur. Ne me prends pas, moi, ta servante, pour une femme sans morale, car c'est l'excès de ma douleur et de ma contrariété qui m'a fait parler jusqu'ici. » Élie répondit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. » Puis elle repartit. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant le Seigneur, ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations avec sa femme Anne, et le Seigneur se souvint d'elle. À la fin de l'année, elle était enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Samuel, car, dit-elle, c'est au Seigneur que je l'ai demandé. Le mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel, ainsi que son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle avait dit à son mari, « Lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai, afin qu'il paraisse devant le Seigneur et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais comme il te plaira, reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Que le Seigneur réalise seulement sa parole. » Ainsi la femme resta, elle allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle l'amena à la maison du Seigneur, à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Ils immolèrent le taureau et amenèrent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur. Par ta vie, je suis cette femme qui se tenait ici, avec toi pour prier le Seigneur. C'était pour ce garçon que je priais, et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. » Sur quoi ils se prosternèrent là, devant le Seigneur.
Merci Sophie. Qu'est-ce qui va se passer mardi? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous allons avoir un nouveau président, président de la République, François Hollande. Et mardi, il a une rencontre importante pour débuter son mandat. Il y a pas mal de dossiers sur la table qu'il devra discuter avec Angela Merkel. Certains disent que la crise dans laquelle nous sommes, et la crise économique, est la pire qu'il y ait eu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la Grèce qui est au bord de la faillite, il y a l'incertitude par rapport à l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et tous ces dossiers, il va falloir les discuter, il va falloir trouver des solutions concrètes, des solutions qui vont tenir. Et on réalise que la tâche, elle est loin d'être facile pour François Hollande. Et même si on ne le dit pas ouvertement, chacun se dit, est-ce qu'il est à la hauteur de la tâche? Est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes? Et en fait, alors qu'on a lu ce livre de Samuel, ou en tout cas les premières lignes, on réalise qu'il y a ce genre d'attente, à la fois dans ce qui précède et dans ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. C'est une nouvelle série qu'on débute là. Il y a quelque 200 ans, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en Égypte et il est entré dans un pays promis, le pays de Canaan. Ça fait 200 ans qu'ils sont là, mais ces 200 ans, ils sont marqués par un déclin à tous les niveaux. Il y a chaque fois un juge, une sorte de libérateur, quelqu'un qui vient à la tête du peuple pour apporter des réformes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les réformes prennent de moins en moins. Et même ces juges, ils sont de moins en moins solides. Ils sont de plus en plus limités. On voit les traces de leur faiblesse de plus en plus au fur et à mesure que le livre des juges avance. Ce livre des juges qui précède celui de Samuel, en tout cas dans la Bible hébraïque, et il y a simplement Ruth avant cela dans nos Bibles, il se termine avec des paroles qui en disent long. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui convenait. L'anarchie, et une anarchie qui se voit et qui a son impact un peu partout, même parmi les Lévites, ceux qui pourtant devaient être consacrés à Dieu et servir Dieu. Toutes les sphères de la société sont atteintes. Et on vit donc dans une attente d'un changement. On attend quelqu'un qui va pouvoir apporter des réformes, un roi. Et dans le même temps, on est peut-être à se demander si quelqu'un va vraiment pouvoir faire quelque chose. Après tout, on a eu toute une succession de juges et il y a toujours ce même déclin. Quel sera le leader qui va remettre la nation sur une bonne voie? Comment est-ce que ce changement va se produire? Quels vont être les signes de ce changement? Et alors qu'on va parcourir ce texte, je vous suggère de voir un élément central ou une phrase centrale. Dieu veut faire grâce à grande échelle, mais il choisit volontairement des petits commencements. Dieu veut faire grâce à grande échelle, mais il choisit volontairement des petits commencements. Et on va suivre le plan suivant. Une femme dans la peine, dans les 8 premiers versets, une femme dans la prière, 9 à 19a, et une femme de parole, 19b à 28. Dieu veut faire grâce à grande échelle, mais il choisit volontairement des petits commencements. Le livre ne commence pas avec l'émergence d'un leader charismatique sur lequel on aurait projeté tous nos regards. Il ne commence même pas avec une série de promesses, de changements. Il commence avec une femme dans la peine. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratite. Quelle est la première remarque qu'on peut faire sur cette introduction? Je suggère la chose suivante. C'est l'histoire d'un inconnu qui vient d'une région peu connue. En gros, c'est un inconnu qui vient d'une région peu connue. Quant au lieu, les commentateurs n'arrivent pas à mettre le doigt sur l'endroit en question. On n'arrive même pas à savoir précisément où ça se trouve, où ça se trouvait. Quant à l'homme, c'est un inconnu. Et même si on a 4 ancêtres, eux sont des illustres inconnus. On les connaît encore moins. Et la suite continue sur la même tonalité. Il y avait deux femmes, Le nom de l'une était Anne, le nom de l'autre, de la seconde, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Vous imaginez Angela Merkel et François Hollande qui se mettent à table et qui, première chose qu'ils évoquent dans leur discussion, monsieur et madame Dupont n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est quelque chose qu'on aimerait discuter et qu'on aimerait évoquer. La situation est quand même difficile pour eux. Est-ce que c'est ça, ce genre de choses qu'on évoquerait à une rencontre au sommet ? On a envie de dire, la situation, elle est triste. Elle est triste, c'est vrai, elle est pénible. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus graves à évoquer ? Des choses qui englobent des réalités qui concernent un plus grand nombre ? En fait, c'est bel et bien le choix de l'auteur de nous faire rentrer dans cette situation-là. En voyant l'ordre dans lequel elles sont présentées, il semble qu'Anne soit la première épouse d'Elkana. Comme elle n'a pas pu avoir d'enfants, il a, semble-t-il, épousé une seconde femme, Pénina, qui, elle, a eu des enfants. Alors, ça peut surprendre d'entendre parler de polygamie. On doit avoir à l'esprit que la pratique, elle était courante à l'époque et tolérée. Ça ne signifie pas que ça colle avec le projet de Dieu dans la Genèse. Et si on regarde tout simplement la description de la réalité de la polygamie à différents endroits dans la Bible, on voit qu'elle n'est pas du tout enviable. Pas du tout. Mais c'est la situation. Et même si la chose n'est pas la plus grave qui soit, on doit réaliser qu'il y a quand même de la pénibilité pour Anne. À une époque et dans une culture où avoir une descendance, c'est quelque chose de très important. Le fait de ne pas avoir d'enfants, c'était quelque chose de dur à vivre. Il y a des moments où les peines ressortent plus que d'autres, plus fortement. Prenez par exemple une personne célibataire qui aspire depuis des années au mariage et qui se rend au xème mariage. C'est un moment difficile. Pensez à une personne qui vient de perdre son époux et qui va fêter ou qui voit arriver la Saint-Valentin. Pensez à un couple qui a perdu l'unique enfant qu'ils avaient et qui voit Noël approcher. Il y a des moments qui sont particulièrement difficiles à vivre et qui renvoient à la réalité difficile. Et le moment qui est difficile à vivre pour Anne, c'est le moment où toute la famille se rend à Silo, là où se trouve le tabernacle, le temple, symbole de la présence de Dieu. Silo, c'était aussi le centre religieux pour le peuple hébreu. Elkana, il est présenté comme un homme qui a un désir de marcher avec Dieu, quelqu'un qui suit la loi prescrite par Moïse. Et donc, il s'y rend chaque année, selon le texte. Mais est-ce qu'on peut être plus précis sur ce qui est difficile à vivre pour Anne alors qu'ils s'y rendent, sur les raisons qui font que c'est pénible pour elle? D'une part, Silo, c'est l'occasion de dire sa reconnaissance à Dieu. Alors, Pénina, elle peut remercier Dieu pour les enfants qu'elle a, mais Anne, est-ce qu'elle peut le faire? Elkana, il est dit, offrait des sacrifices, et on avait des sacrifices de communion qu'il était possible de consommer par ceux qui les offraient. Elkana donc partageait à chaque fois la viande qu'il allait offrir pour ce sacrifice de communion avec les femmes, mais aussi avec les enfants. Et là encore, alors que le partage se fait, naturellement, ça renvoie au fait qu'elle n'a pas d'enfants. Il est bien dit qu'Elkana donnait une part de choix, probablement dans un désir de compenser. Et la raison qu'il donne, c'est qu'il aimait Anne. Anna, c'est ma femme. Bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. Et cette remarque, elle va être faite une seconde fois. Le Seigneur l'avait rendu stérile. C'est la raison pour laquelle, semble-t-il, Pénina ne cessait pas de la contrarier. Alors que penser de cette remarque au sujet du fait que le Seigneur l'avait rendu stérile? Ça peut sembler difficile à comprendre, c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Une option, semble-t-il, retenue par Pénina, c'est que si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu l'as mérité. Tu as dû faire quelque chose de mal et tu l'as bien mérité. Est-ce que c'est la bonne option? On n'a aucune trace dans le texte de quelque chose de mal que Caïn aurait pu faire. Et ça ne colle pas avec le personnage qui est décrit de manière remarquable, un portrait remarquable qui nous est fait d'Anne. Mais alors comment comprendre que le Seigneur, et il est dit à deux reprises, l'avait rendu stérile? La tension, elle devient encore plus forte si on garde à l'esprit le mandat créationnel dans Genèse 1 et 2, fait d'être fécond, de remplir la terre. La tension, elle devient encore plus forte lorsqu'on entend les paroles de bénédiction que Dieu prononce en faveur du peuple avant qu'il entre dans le pays promis, Deutéronome 7, 14. Tu seras béni plus que tous les peuples, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Comment est-ce possible? C'est un fardeau lourd pour Anne, une peine qui lui coupe l'appétit, elle n'a pas envie de manger. Et Pénina en rajoute en lui faisant des remarques. On peut imaginer le genre de remarques qu'elle faisait. Tu sais, si tu n'as pas d'enfant, c'est probablement que tu as dû faire quelque chose de mal. Alors que moi, tu vois, pour moi ça se passe bien. On doit saisir l'aspect destructeur de telles paroles, comme on le voit par exemple dans le livre de Job, les amis de Job qui eux aussi prétendent que si Job souffre, il a dû faire quelque chose de mal. Alors s'il est vrai qu'il y a des souffrances que nous vivons comme une conséquence directe de ce que nous avons fait, la plupart du temps, on ne peut tout simplement pas faire cette équation. Tu souffres parce que tu l'as mérité. Mérité plus que d'autres. C'est ce que Jésus dira, par exemple, dans Luc 13, en son temps. Et pourtant, on n'a pas une réponse facile à cette souffrance, à ce qu'elle vit, au fait que Dieu l'ait rendue stérile, et on aura besoin d'y voir plus clair par la suite. En attendant, on revoit Elkana être soucieux de sa femme, il l'aime, et il va lui poser la question, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Alors, il est bien sympa, mais si vous avez une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qu'elle s'entend dire par son mari « Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils ?» On a envie de dire c'est de la bonne volonté, mais tu n'es pas un fils et encore moins 10 fils. C'est un mari, un simple mari. Même si un mari c'est déjà formidable, il ne peut pas se mettre dans la peau d'un enfant. Anne, elle est probablement dans la peine et l'incompréhension, et on voit la tension, une tension forte qu'elle doit vivre. Elle est stérile alors que toutes les paroles de bénédiction, le mandat créationnel est en arrière-plan. Et pourtant, il y a d'autres choses qu'on devrait avoir à l'esprit. Ce qu'on entend ici devrait nous donner la puce à l'oreille. Est-ce que c'est la première fois qu'on rencontre une femme stérile dans les pages de la Bible? N'était-ce pas déjà le cas de femmes comme Sarah, Rebecca, Rachel? Dieu veut faire grâce à grande échelle, mais il choisit volontairement les petits commencements. Et contre toute attente, ce que nous lisons là a les allures d'un nouveau départ, comme Matthieu l'a suggéré tout à l'heure. Et par qui ce nouveau départ est initié? Par une femme de la campagne qui est stérile, mais qui a foi en Dieu. On le retrouve encore et encore à travers la Bible. Le changement ne vient pas d'hommes et de femmes qui se croient autosuffisants, qui sont sûrs d'eux-mêmes. Le principe, le mode opératoire de Dieu, c'est de placer des gens dans une tension réelle où ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes s'en tirer. Sans force, sans ressources, sans espoir humain, c'est là qu'il choisit de dévoiler sa grandeur, sa bonté. Une femme dans la prière, c'est le deuxième point. Face à la tension qu'on a relevée, comment est-ce qu'elle réagit? On pourrait penser à plusieurs, si vous étiez dans sa position, comment est-ce que vous auriez réagi? J'en imagine deux. Une réaction, ça aurait peut-être été de se dire, si elle avait cette raison donnée, que le Seigneur l'a rendue stérile, si elle avait ça à l'esprit, une manière de réagir, ce serait de dire, mais il l'a voulu, c'est comme ça, abandonner, de se dire simplement c'est la fatalité, j'accepte, c'est bon, j'abandonne, je cède. Une autre option, ce serait de se dire il faut que je réalise ce projet. Quoi qu'il en coûte, il faut que j'aie cet enfant. Et c'est intéressant de relever, alors qu'on a mentionné ces quelques femmes parmi les patriarches qui ont voulu un enfant, qu'elles ont voulu opérer ce changement par eux-mêmes, par elles-mêmes. Sarah, Léa, Rachel, elles ont demandé à leur servante de coucher avec leur mari de sorte qu'elles puissent avoir un ou plusieurs enfants. Mais remarquez que Anne ne tombe ni dans la fatalité, ni dans la magouille. Ce qui caractérise Anne, c'est qu'elle se met à prier. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, Anne se leva. Amère, elle se mit à prier le Seigneur et à pleurer abondamment. Un commentateur parle ici de la logique de la foi. Anne est dans la logique de la foi. Dans la logique de la foi, elle ne tombe ni dans le fatalisme, ni dans la magouille. Elle prie avec ferveur, elle prie avec les larmes authentiques devant Dieu. Et c'est l'occasion de relever un fait tout simple. C'est que dans sa grâce, Dieu permet que nous puissions vivre des peines qui nous mènent à réaliser notre dépendance en lui. Contre toute attente, elle reçoit un cadeau, Anne. Le cadeau de réaliser qu'elle a besoin de Dieu. Et c'est bel et bien un cadeau. Contre toute attente, c'est bel et bien un cadeau. Elle s'appelle Anne, ce qui signifie grâce. Certains pourraient dire, mais elle a tout sauf reçu une grâce. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, un cadeau qui lui est fait. Et pourtant, je vous suggère que c'est bel et bien une grâce. Tous les temps de temps, on a besoin de recyclage en tant que pasteur. Et moi, j'ai eu la joie de pouvoir vivre une pastorale et cette semaine, un autre séminaire. Alors, ça faisait pas mal de temps de recyclage. J'en avais besoin. Hein. Mais c'était un temps précieux pour recevoir un enseignement. Mais il faut reconnaître que les temps avec d'autres pasteurs, il y a un côté désagréable. Un côté assez désagréable. Quand on est avec d'autres pasteurs, Mathieu, Paul, diront si c'est leur cas aussi, vous pourrez leur demander. Mais une des tendances qui vient naturellement à l'esprit, quand on se retrouve avec d'autres pasteurs, c'est de vouloir se comparer, de vouloir tomber dans l'une ou l'autre pente, et on a de la peine à ne pas tomber dans cette pente. Soit dans celle qui consiste à voir quelqu'un qui a des dons remarquables, des dons bien plus imposants que les nôtres, et de voir dans cette personne quelqu'un qui pourra être utilisé par Dieu et d'envier cette personne. Ça serait une tendance. Une autre tendance, ça serait de rencontrer d'autres personnes dans le ministère et de les regarder de haut, d'estimer qu'ils ont encore de la route à faire, qu'ils sont loin du compte. Et un des temps qui m'a fait beaucoup de bien pendant la dernière conférence à laquelle j'ai assisté, c'était un atelier sur la méditation. Et l'intervenant nous invitait à reconnaître l'importance de redécouvrir constamment la valeur de l'œuvre de Jésus en notre faveur. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a parlé de toutes les fois où il avait besoin tout simplement de dire une courte prière pour dire à Dieu le besoin d'être attaché à cet évangile, cette bonne nouvelle dont Matthieu parlait tout à l'heure. De se souvenir que Jésus a vécu la vie que je n'ai pas vécue et il a vécu la mort que moi j'aurais méritée. Et que le fait que je puisse me savoir en sécurité, que mon identité soit fondée, que je sache avoir de la valeur, ne vient pas de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, mais vient de ce que lui a accompli à ma place. Et c'est de cette façon que cet intervenant parlait d'éviter à la fois le découragement, le fait d'être plombé parce qu'on sait tout ce qu'on n'est pas, mais aussi le moyen d'éviter la prétention, l'arrogance, le sentiment d'être supérieur parce qu'on en a fait plus que d'autres. La grâce qui est accordée à Anne ici, une grâce qu'elle saisit, c'est de réaliser qu'elle dépend de Dieu. Elle dépend entièrement de lui. Et combien c'est souhaitable pour nous de vivre ces moments-là où on réalise qu'on est dépendant de lui, qu'on ne dépend pas de notre capacité à vivre selon sa justice. Et c'est être lucide que de reconnaître ça. C'est la véritable lucidité de reconnaître que nous sommes dépendants de Dieu, plutôt que d'être aveuglé, soit par le découragement, ou d'être aveuglé par l'orgueil, la prétention. Si Anne, elle est lucide dans ce passage, je vous suggère qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas lucide. Il y a un contraste, à mon avis, qui est fait, un contraste volontaire entre deux personnes, entre Anne et Élie. Un prêtre qui se trouve dans le temple au moment où il s'y rend. On aura l'occasion dans les semaines qui viennent de décrire la trajectoire d'Élie, mais relevons le contraste. Alors qu'Anne vient pour pleurer et prier abondamment, il est dit d'Élie qu'il est assis sur son siège près du montant de la porte du temple. Bergen, un commentateur, suggère que l'auteur veut le présenter comme quelqu'un qui est en place d'autorité. Il siège dans le temple, il est le prêtre, le responsable, juge en quelque sorte de ce qui se passe. Et alors qu'il observe Anne, qu'il voit bouger ses lèvres, mais qu'elle reste silencieuse, il pense quoi ? Il pense qu'elle est ivre. Et il va jusqu'à lui dire, « Jusqu'à quand resteras-tu ivre ? Va cuver ton vin !» Si vous êtes dans la position d'Anne et que vous venez avec un poids aussi lourd devant Dieu, comment est-ce que vous recevriez cette remarque ? Mais Anne va avoir l'occasion de se défendre, de répondre que c'est la peine, l'amertume qu'elle vit qui l'ont poussée à prier autant. Pas d'arrogance dans la réponse. Elle termine même en disant « Je suis ta servante, que je trouve toujours grâce à tes yeux. » On a donc d'un côté Élie qui siège dans le temple. Mais est-ce qu'il est lucide sur la situation ? Et de l'autre, on a Anne qui reconnaît qu'elle est dépendante de Dieu et qui est bel et bien lucide sur son besoin. Et pourtant, c'est lui qui tient la position sociale, c'est lui qui est le prêtre élevé, alors qu'elle n'est qu'une femme de la campagne. Mais qui est dans la meilleure position sur le plan spirituel ? Dieu veut faire grâce à grande échelle, mais il choisit volontairement les petits commencements, les personnes qui semblent insignifiantes. Et qu'est-ce qu'on entend dire dans sa prière ? Elle fit un vœu en disant « Seigneur des armées, si tu daignes regarder mon affection, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas, si tu me donnes une descendance à moi qui suis ta servante, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Elle s'adresse à lui comme le Seigneur des armées, autrement dit le Dieu tout-puissant, souverain, capable de faire ce qu'il veut. Et dans les termes qu'elle utilise ensuite, on réalise quelque chose de frappant par rapport à d'autres termes qu'on a déjà vus dans le livre de l'Exode ou le Deutéronome. Ce sont les mêmes termes que Dieu utilise pour parler de la délivrance qu'il est sur le point d'opérer. L'esclavage en Égypte, dont il est sur le point de les délivrer. Regarder mon affliction, se souvenir, ne pas oublier. C'est précisément de cette façon que Dieu parle de la rédemption. Exode 3, 7, 4... 13, Deutéronome 26, 7. Elle utilise ces mêmes paroles pour s'adresser à Dieu, qu'il opère cette rédemption, comme il l'a fait pour les Israélites alors qu'ils étaient en esclavage. Elle se base sur ces paroles. Et maintenant, peut-être qu'en entendant ces paroles, si tu fais ci, si tu fais ceci ou si tu fais cela, il y a peut-être l'impression chez l'un d'entre nous, de l'un ou l'autre, qu'elle est en train de tordre le bras de Dieu, un bras de fer avec lui. Il faut que j'obtienne ce que tu me dois. Mais là encore, ça ne colle pas avec ce qu'elle dit dans le fond. Elle dit en gros que si elle obtient cet enfant, elle va le donner au Seigneur. Cet enfant va être consacré à Dieu. Il y a ont vu le vœu naziréen d'une personne qui sera consacrée à Dieu. Elle n'est pas en train de chercher un enfant comme un aboutissement. Elle veut un enfant qui, en fin de compte, va servir à la gloire de Dieu. Et ça, soit dit en passant, c'est un bon indicateur pour nous. Quelque chose, une bonne question à nous poser quand on demande quelque chose dans la prière. Que ce soit pour un travail, que ce soit pour un examen à passer, que ce soit pour un désir de se marier, un appartement à trouver. Anne montre qu'il y a beaucoup de liberté dans la prière pour s'adresser à Dieu, pour lui demander ces choses. Et dans le même temps, elle est un remarquable exemple pour nous dire qu'il doit y avoir plus que cela. Que ce que je demande, ce n'est pas l'aboutissement, mais plutôt que cette chose que je veux, qu'elle puisse aboutir d'une façon ou d'une autre à la gloire de Dieu. Dans quelle mesure est-ce que je vois au-delà de la chose que je demande et de ce que Dieu pourra en faire? Pour conclure cette partie, on peut relever le changement dans l'attitude d'Anne. Il est dit qu'elle mangea et son visage ne fut plus le même. Avant même d'avoir obtenu ce qu'elle demandait, elle a déjà changé dans son attitude. Elle n'a même pas obtenu cet enfant. Est-ce que c'est parce qu'elle croit qu'elle va l'obtenir? Peut-être. Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle a pu vivre ce temps dans la prière et avoir confiance que Dieu sait ce qui est bon pour elle? Plus probablement, à mon avis. On arrive à la dernière partie, une femme de parole. Une femme de parole. Ils retournent chez eux à Rama, et dans le cadre de leur union, ils ont des rapports sexuels l'un avec l'autre, et le Seigneur se souvint d'elle, il est dit. Même terme qu'elle a utilisé dans sa prière. Quand on voit l'utilisation de ce terme dans l'Ancien Testament, il n'est pas question d'une perte de mémoire de Dieu, il est plutôt question d'une intervention imminente. Il est sur le point d'agir, et cette expression en témoigne. Anne lui donne le nom de Samuel à cet enfant qui naît, et en hébreu, ça fait assonance avec celui qui a été demandé. Et en sachant l'attachement qu'une mère peut avoir pour son enfant, est-ce qu'elle va le céder facilement, cet enfant? Est-ce qu'elle va véritablement l'amener au temple pour qu'il soit consacré à Dieu, servir là-bas? Même si elle demande un temps pour sevrer l'enfant, et ça pouvait prendre plusieurs années, elle va bien réaliser sa parole, elle va accomplir le vœu qu'elle a prononcé. Elle va retrouver ce même Élie et dans l'échange, remarquer les allusions au nom de Samuel. « Pardon, mon Seigneur, par ta vie, je suis cette femme qui se tenait ici avec toi pour prier le Seigneur. C'était pour ce garçon que je te priais. Et le Seigneur m'a donné ce que je lui demandais. À mon tour, je le cède à la demande du Seigneur. Il sera demandé pour le Seigneur tous les jours de sa vie. » Si elle a eu la liberté de demander ce qu'elle souhaitait à Dieu, on découvre une autre facette dans ce qu'elle dit. Et ça rejoint notre manière de comprendre ce passage. Comment est-ce que vous devriez appliquer ce passage? Comment est-ce qu'on devrait l'appliquer? Est-ce que c'est simplement le fait de se dire, si j'ai conscience d'une aspiration, quelque chose que je souhaite, je devrais le demander à Dieu, tout en m'assurant que c'est pour sa gloire? Et en fin de compte, je vais l'obtenir. Si c'est vrai qu'Anne nous donne un exemple dans la foi et qu'elle est bien une inspiration à faire pareil, elle nous donne un exemple dans la manière dont elle prie et dont elle reconnaît que tout est à Dieu, à mon avis, ce serait manquer le message central de ce récit, de ce que cette histoire veut nous dire. Pour le saisir, je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'Anne est la seule femme stérile dans l'histoire, la seule femme stérile qui est venue avec une bonne attitude devant Dieu en demandant à Dieu d'intervenir en sa faveur? Est-ce que c'est la seule femme stérile qui a eu cette bonne attitude? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres femmes stériles dans l'histoire qui ont demandé avec une bonne attitude à avoir un enfant, qui ne l'ont pas reçu. Si vous receviez cette application comme ça, si on se disait que c'est ça l'application, quel regard est-ce que vous auriez vis-à-vis d'une personne, justement, une femme, qui ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce que vous allez vous dire au fond de vous-même, elle n'a pas dû prier? Ou elle n'a pas dû prier avec de bonnes aspirations, avec la bonne attitude? Et tout en vous disant ça, on réalise qu'on est dans la peau de Pénina. C'est exactement la même attitude que Pénina démontrait vis-à-vis d'elle. Ça ne peut pas être l'application de ce passage. Ça ne peut pas être ce message. Même si Anne est une inspiration, ça ne peut pas être simplement cela. Qui est le héros de cette histoire? Anne, Elkana? Anne dit quelque chose d'intéressant à Eli. Elle a conscience que même si c'est elle qui a demandé Samuel, dans le même temps, elle peut dire que c'est Dieu qui a demandé Samuel. C'est Dieu qui est à l'œuvre pour opérer une rédemption à grande échelle et qui choisit les petits commencements. Ça se vérifie dans le cantique qu'elle va composer et qu'on retrouve dans le chapitre Dieu. Elle reconnaît que ce qu'elle a vécu à petite échelle est le symbole, le signe de ce que Dieu veut faire à grande échelle. Et ça doit nous alerter sur quelque chose d'autre qui va se passer dans l'histoire. Quelque chose de bien plus grand. Dans une petite ville insignifiante, une ville comme Bethléem, une femme qui se décrit elle aussi comme la servante du Seigneur, une naissance qui paraît impossible, improbable, une naissance qui annonce pourtant un changement sur un plan large. Je suggère que ce texte il devrait nous pousser à l'émerveillement de ce que Dieu choisit volontairement les petits commencements. Il choisit des renversements et chaque petit renversement que nous vivons dans notre vie devrait être l'occasion de se souvenir qu'il a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses qui sont insignifiantes pour témoigner de sa puissance. Et chacune de nos peines, chacune des impossibilités face auxquelles nous sommes, ça devrait être l'occasion de réaliser que nous sommes dépendants de lui. L'occasion de nous dire que nous avons besoin de lui, que cette bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le seul moyen de vivre, ni dans le découragement et ni dans la prétention ou l'arrogance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous laisser émerveiller de ce que tu choisis d'entrer dans les choses qui paraissent insignifiantes et opérer des renversements dont toi seul tu es l'auteur. Te prions que nous puissions être attirés vers toi et renoncer à toute suffisance, tout sentiment d'être à la hauteur, de pouvoir gérer notre propre vie. Accorde-nous au contraire la grâce, la lucidité de dépendre de toi et de constater qu'en Jésus, nous avons celui qui a opéré le plus grand renversement de l'histoire. Il a vécu la vie juste que je n'ai pas pu vivre et il est mort de la mort que je méritais. Te prions, Père, que nous puissions vivre à la lumière de ce qu'il a fait pour nous. En son nom. Amen.